6h à Paris, 5h en temps universel et 8h30 à Téhéran.
RFI Matin.
RFI Matin et le journal de Pierre Boudias. Bonjour Pierre.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
Ce feu vert républicain pour les opérations militaires en Iran.
Les sénateurs fidèles à Donald Trump font bloc et rejettent un texte demandant l'aval du Congrès sur la mobilisation au Moyen-Orient. Mais ils préviennent, l'exécutif devra s'expliquer en cas de déploiement au sol. Un conflit qui continue de paralyser le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, un corridor pourtant vital pour le commerce du pétrole et du gaz. Malgré des promesses de protection américaine, les armateurs choisissent toujours de le contourner. Le jour J pour la jeunesse népalaise, 6 mois après un soulèvement de la Gen Z, les électeurs du pays sont appelés aux urnes pour des législatives anticipées. Nous retrouverons notre envoyé spécial à Katmandou dans cette édition. On sera également en France où les célébrités s'engagent dans la course municipale. Et puis on vous expliquera pourquoi le marché des téléphones d'occasion est en plein boom et pourquoi c'est une bonne nouvelle pour la planète.
De guerre au Moyen-Orient et un camp républicain au garde à vous.
Les sénateurs américains ont dit non hier à un texte visant à accentuer le contrôle du Congrès sur le déploiement des États-Unis face à l'Iran. Le texte prévoyait le retrait de certaines troupes engagées dans le conflit en attendant l'aval des parlementaires. Il a été rejeté à 47 voix pour, 53 contre. Nouvel exemple de l'unité du parti républicain malgré des dissensions en interne et malgré une campagne intensive des démocrates. À Washington, les explications de Vincent Souriau.
Comme prévu, les sénateurs républicains ont fait bloc derrière la Maison-Blanche. Un seul élu conservateur, Rand Paul, le libertarien du Kentucky, s'est rangé du côté démocrate en faveur de cette résolution, mais ça n'a pas suffi à inverser le rapport de force. Certains élus républicains l'ont reconnu. Il y aurait pu y avoir des auditions, nous aurions posé des questions, cherché une véritable unité autour de cette opération, mais c'est trop tard, nous sommes en guerre. Autrement dit, il faut soutenir l'armée coûte que coûte, maintenant que le conflit est ouvert. Un seul scénario semble pouvoir faire bouger les lignes, l'hypothèse de mobiliser des troupes au sol. Les républicains indiquent que dans ce cas-là, ils seront particulièrement vigilants et qu'ils attendront de sérieuses explications de l'exécutif. Après le Sénat, c'est à la Chambre des représentants de se prononcer à son tour aujourd'hui sur les pouvoirs de guerre du président. Vincent Souriau, Washington RFI.
Donald Trump qui continue de se féliciter du déroulement des opérations sur le terrain. Le président américain estime que les États-Unis sont désormais en position de force face à l'Iran. Message repris par Israël qui assure via le porte-parole de son armée que le nombre de missiles iraniens tirés vers son territoire diminue chaque jour. Des explosions ont malgré tout été entendues à Jérusalem ces dernières heures. La République islamique reste elle aussi intensément pilonnée. Téhéran visée dans la nuit. 1045 personnes ont été tuées sur place depuis le début du conflit selon les autorités. Lourd bilan également au Liban. Toujours frappé par Israël qui mène des opérations au sol. Le pays du Cèdre où 72 personnes ont été tuées et 83 000 autres déplacés dans le sud du pays. Et si ce conflit au Moyen-Orient, vous l'entendez, est avant tout une affaire de frappe et de bombardement, il se déploie également sur les mers et les océans. Le secrétaire américain à la Défense s'est félicité hier du torpillage d'une frégate iranienne par un sous-marin américain, une première depuis la Seconde Guerre mondiale, selon Pete Hegseth. Le navire se trouvait alors dans les eaux territoriales de l'océan Indien. Le Sri Lanka a dit avoir récupéré 87 corps et secouru 32 marins. Une attaque qui pose la question de la délicate position de l'Inde dans ce conflit. New Delhi fait en effet tout pour rester neutre afin notamment de protéger ses approvisionnements en pétrole iranien. C'est ce qu'explique Emmanuel Linco, professeur à l'Institut catholique de Paris, auteur de Chine-Inde, la guerre des mondes aux éditions Le Cerf.
L'Inde dépend totalement des marchés extérieurs en termes d'approvisionnement énergétique. Donc l'Inde a toujours été très neutre, notamment dans la politique des sanctions occidentales appliquées à l'ONU contre l'Iran. Et l'Inde, à ma connaissance, justement, ne s'est pas trop avancée sur l'intervention israélo-américaine contre l'Iran. Sachant par ailleurs que l'Inde a toujours eu l'espoir de voir à terme lever les sanctions américaines, notamment pour profiter du grand port iranien de Chabahar Abbas, et dans l'espoir d'établir des relations non seulement avec l'Iran, mais aussi des relations avec l'Asie centrale voisine, et partant d'établir, si vous voulez, une logique d'alliance de revers par rapport au Pakistan et par rapport à la Chine.
Emmanuel Linco, professeur à l'Institut catholique de Paris. Autre navire touché hier, un pétrolier ancré au Koweït qui a subi une forte explosion et perd désormais son chargement. On ne connaît pas encore l'origine de l'incident.
Dans ce contexte, Pierre, les gardiens de la Révolution revendiquent leur mainmise sur le détroit d'Ormuz.
Un corridor par lequel transite 20% du pétrole et du gaz mondial et dont l'Iran dit avoir le contrôle total. Un général de la République islamique promet même de brûler tout navire cherchant à franchir le détroit. Donald Trump, de son côté, assure que la marine américaine se tient prête à escorter les bâtiments souhaitant l'emprunter, mais pas de quoi rassurer les armateurs. Nicolas Feldman, une à une, les compagnies maritimes suspendent leurs opérations dans la région.
Dernière en date, le géant chinois du transport maritime Cosco. Ce mercredi, la compagnie qui exploite l'une des plus importantes flottes de pétroliers au monde annonce suspendre ses services en provenance et vers plusieurs pays du Golfe. Cela concerne les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, l'Arabie Saoudite, l'Irak et le Koweït. Avant Cosco, le Danois Maersk ou l'Italien MSC avaient eux aussi mis en pause leurs opérations dans la région. Dès le début de la guerre, les gardiens de la Révolution avaient prévenu les compagnies maritimes. Traverser le détroit d'Ormuz exposerait les navires. Dimanche, l'Iran a mis ses menaces à exécution. Au moins 3 bateaux ont été attaqués. Résultat, les armateurs ont depuis détourné une partie de leurs navires en passant bien plus au sud via le Cap de Bonne-Espérance, ce qui rallonge le trajet et fait mécaniquement exploser les tarifs de fret. Mais plusieurs centaines de bateaux près du détroit d'Ormuz se retrouvent pris au piège. D'après la société d'analyse Kepler, le trafic de pétroliers traversant le détroit a chuté de 90% en une semaine.
À Nicolas Feldman.
RFI, il est 10h52 à Katmandou après le soulèvement, le vote pour les Népalais.
Six mois après ce mouvement éclair de la jeunesse qui lui a permis de renverser le gouvernement, ils sont 19 millions appelés aux urnes aujourd'hui. Une élection sous forme de tournant pour le pays. Depuis 2008, il est dirigé principalement par 3 formations politiques, mais un candidat porté notamment par la génération Z semble favori pour devenir Premier ministre. Nicolas Roca, vous êtes en direct de Katmandou pour RFI. Bonjour.
Bonjour Pierre.
Peut-on parler d'engouement pour ce scrutin là où vous êtes? Les électeurs se déplacent-ils en masse?
En tout cas, il y a une ligne continue ici où je me trouve à Patane, proche du cœur de Katmandou. Les électeurs défilent dans un bureau de vote installé dans un cadre magnifique au pied de monuments historiques hindous et bouddhistes. Le reste de la ville, en revanche, est calme. Beaucoup sont rentrés voter dans leur village d'origine. Des trajets souvent longs, faute de routes de qualité, le manque d'infrastructures, ça fait partie des préoccupations des Népalais. Mais la plupart des électeurs ici martèlent surtout le message des manifestants qui ont renversé le gouvernement en septembre. Ils demandent la fin de la corruption et du chômage qui pousse la jeunesse au départ. Près de 2 millions de Népalais sont partis travailler au Moyen-Orient. Cette volonté de changement, de dégager la vieille garde politique, est omniprésente et un duel en est le symbole. Dans une circonscription s'affronte le favori pour remporter l'élection, le candidat plébiscité par la jeunesse, Balendra Shah, un ancien rappeur, maire de Katmandou de 35 ans. Face à lui se dresse l'ex-premier ministre Kapé Sharma Oli, 74 ans. C'est l'homme qui a été contraint de quitter son poste en septembre après la répression dans le sang des manifestants.
À Nicolas Roca, envoyé spécial de RFI à Katmandou. Merci à vous. La lutte contre la corruption au cœur des préoccupations de la jeunesse népalaise, mais aussi des autorités angolaises. Le président João Lourenço en a même fait son combat personnel et la justice du pays n'a pas peur d'aller chercher l'argent dérobé à l'international. Parmi les pays visés, le Portugal. Eva Massi, l'ancienne colonie, a déjà rendu 3 millions de dollars à Surlanda.
Parmi les personnes visées figure l'entrepreneur Carlos Vicente, un proche de la famille dos Santos, condamné à 9 ans de prison. Ses actifs hébergés au Portugal font partie des 3 millions de dollars rendus à Luanda, d'après le président João Lourenço.
Nous exigeons que ces actifs soient restitués à leur légitime propriétaire, l'État angolais. Certains fonds hébergés au Portugal nous ont été rendus. Il nous faut maintenant intensifier la coopération avec les autres pays. Nous avons besoin de ces ressources pour construire des écoles, des hôpitaux, des routes et d'autres infrastructures nécessaires pour le développement de notre pays.
La Suisse, les Bermudes ou encore Chypre, autant de pays interpellés par Luanda et qui abriteraient au total 2 milliards de dollars. Mais pour atteindre son objectif, Luanda devra composer avec les procédures légales des pays concernés, ce qui complique le processus, reconnaît le procureur général Elder Pitagros.
Nous sommes en contact permanent avec ces juridictions, mais il faut qu'on respecte leurs formalités. Et cela ne va pas aussi vite que nous le souhaiterions.
ses armes aux écrèmes.
Certains cadres du parti au pouvoir sont également épinglés pour affaires de corruption. C'est le cas du général Higino Carnero, arrêté en décembre après avoir annoncé sa candidature à la succession du président João Lourenço.
Eva Massi.
En France, les municipales approchent et les candidats draguent les célébrités.
Avec succès pour certains, à 10 jours du premier tour le 15 mars, artistes et sportifs sortent du bois. Des stars qui ont décidé publiquement de soutenir un candidat, Raphaël Delvolvé.
À Paris, les artistes sont particulièrement convoités. C'est assez classique. Sur ce bord de l'échiquier, le candidat socialiste Emmanuel Grégoire est désormais soutenu par plusieurs stars parisiennes du cinéma, comme Agnès Jaoui ou Laure Calamy. Chez la concurrence, la LR Rachida Dati s'est elle attachée le soutien de l'humoriste des nuls Dominique Farrugia. Dans d'autres villes de l'Hexagone, les sportifs sont assez prisés. À Bordeaux, l'ex-footballeur international Yoann Micou a choisi de soutenir le candidat sans étiquette Philippe de Sertine. À Lyon, Jean-Michel Aulas, ancien patron du club de football, l'Olympique Lyonnais, a lui pour grand supporter le ballon d'or Karim Benzema, quand son rival écologiste Grégory Doucet obtient celui de l'athlète Pierre-Androise Boss. On citera aussi l'appel du journaliste Philippe Bouvard à voter pour le LR David Lisnard à Cannes. Nul ne connaît le nombre de voix que rapporte de tels soutiens, mais en croire un conseiller engagé dans une campagne difficile, c'est un plus. Ça donne, je cite, une indication sur la ligne défendue.
Raphaël Delvolvé, puis Andréane, vous en avez peut-être qui traînent dans vos armoires. Un, parfois plusieurs téléphones mis de côté pour une version plus moderne, mais qui fonctionne encore. Eh bien, sachez que si vous en avez effectivement, vous pouvez leur offrir une seconde vie, car le marché des téléphones d'occasion est en plein boom en Europe et dans certaines régions d'Amérique du Nord. En France, Lucie Gimbert, une personne sur deux a ainsi déjà acheté un téléphone de seconde main.
Principale cause du succès des téléphones d'occasion, ils sont beaucoup moins chers, jusqu'à moitié moins que les mobiles neufs dont les prix s'envolent. En ces temps d'inflation généralisée, cela compte. Deuxième facteur, les nouveaux modèles incluent surtout des modifications de software, pas tellement de composants physiques. Enfin, la prise de conscience écologique est croissante, en particulier chez les jeunes. Stephen Moore est chargé de la stratégie climat à la GSMA, l'Organisation internationale des opérateurs mobiles.
Tu peux éviter entre 80 et 90% de l'impact environnemental de ton téléphone en achetant un smartphone reconditionné. C'est significatif.
La puce et le processeur sont les éléments les plus problématiques. Donc, même si l'écran, la coque ou la batterie ont été changés, cela vaut toujours le coup écologiquement. En Europe et en Amérique du Nord, de plus en plus de consommateurs s'efforcent d'allonger la durée de vie de leur mobile pour produire moins de déchets électroniques.
Dans les pays du Sud, beaucoup de téléphones sont donnés à des membres de la famille et pas forcément rendus à un opérateur pour les reconditionner. Et la réparation, elle, passe souvent par le secteur informel. C'est donc plus difficile d'avoir les chiffres.
En tous les cas, les perspectives sont florissantes. De 70 milliards de dollars en 2026, le marché des téléphones d'occasion devrait atteindre 100 milliards d'ici 2031.
Les explications de Lucille Gimbert.
Et le journal de Pierre Boudias. Merci beaucoup, Pierre. Et bienvenue à vous, RFI Matin, jeudi 5 mars, sixième jour de guerre. L'Iran, aidé du Hezbollah libanais contre Israël et les États-Unis. Encore des frappes cette nuit, des explosions rapportées à Téhéran, à Jérusalem et au Liban. On sera encore ce matin aux côtés des déplacés à Beyrouth avec une ONG qui leur vient en aide. Notre correspondante a rencontré cette femme dont l'ONG avait déjà agi en 2024 lors de la dernière guerre.
Déjà vu.
C'est du déjà vu. Est-ce que j'avais envie de revivre ça ? Non. Je suis en colère, oui, mais je ne peux pas en vouloir aux déplacés. Ils ont besoin de mon aide, donc je dois être sur le terrain. Ce n'est pas de leur faute si on est dans cette situation. Ils sont des victimes, comme nous.
Reportage à écouter dans le journal de 8h. Bonjour Arnaud Pontus.
Andréane, bonjour à tous.
Ce matin, à 7h20, RFI reçoit justement l'ambassadeur du Liban en France.
Oui, avec Rabi Shaher, on va évoquer l'évolution de la situation dans son pays. Le Liban, donc une nouvelle fois entraîné dans la guerre par le Hezbollah libanais, le parti milice pro-iranien qui a lancé des drones et des missiles sur Israël pour venger la mort du guide suprême iranien. Et en riposte, l'armée israélienne frappe le Liban, frappe couplée à une avancée des troupes dans plusieurs localités frontalières. Là, c'est sur le terrain. Le président français Emmanuel Macron a parlé hier à Donald Trump et Benjamin Netanyahou. Il a appelé le premier ministre israélien à préserver l'intégrité territoriale du Liban et à s'abstenir d'une offensive terrestre. Qu'attend l'ambassadeur du Liban en France? ses espoirs et ses inquiétudes. Il est avec nous tout à l'heure.
Voilà, un sixième jour de guerre avec toujours plus de morts, de blessés et de destruction. Et cette guerre, elle s'étend sur la carte sans oublier ses conséquences nombreuses sur l'économie. Celle de l'Iran, bien sûr, hein, c'est le sujet d'aujourd'hui, l'économie. À 8h30, on entendra aussi les Comoriens inquiets de l'approvisionnement des stations essence. Et puis, on veut aussi essayer de comprendre ce qui se joue dans cette union des forces entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou. C'est le sujet de la Fabrique du Monde juste avant 6h, temps universel. Quelle position aussi pour le Maroc face à cette guerre ?
Élise, 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 saute-moi au cou.
Élise, 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 cherche-moi des poux.
Enfonce bien tes ongles
et tes doigts délicats
dans la jungle de mes cheveux. Élise, 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 saute-moi au cou.
Élise, 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 cherche-moi des poux.
Fais-moi quelques anglaises
et l'arrêt au milieu.
On a 13, 14 ans.
Élise, 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 les autres on s'en fout.
Élise, 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 rien que toi, moi, nous.
T'es 20 ans, mes 40, si tu crois que cela
me tourmente.
Ah, là, vraiment, Lisa.
Ma poitrine, tu me croiseras pas dans une caisse en fumée ou chez un tel, ni dans un bar, je suis à l'appart en train de coucher un thème solitaire endurci. Le vice traîne et cette nuit le spleen freine, le sursaut d'une âme en sursis. Besoin de m'isoler, de prendre de la distance de tes grâces pissonnées. Ça évitera que je vous pissonnais il y a 10 ans. J'aurais déjà pu faire ce 11. C'est comme si je m'enfonçais dans cette forêt pleine de ronces. Non, ce n'est pas si dur de ne pas céder au allez, vas-y, viens, taciturne. Ce soir, la solitude me va si bien consolée par la sono. Des rimes s'émanent de la brume, je calcine en solo. Sous le regard de la lune, je suis d'humeur à m'exprimer quand multisyllabique et boucle de sangle. Lourde de sang sont ces nuits de misère 2017. Mon lit a besoin d'une charmante marchande de sable dans une petite nuisette. L'insomnie me guette. À l'heure où transitent des colis de drogue dure, mélancolie nocturne, encore éveillé comme ces lampadaires. Morphée ne manque pas d'air, loin de ses bras, je compte ces moutons qui veulent voir mon clan à terre. Comment mener mon plan à terme? 5h07, je suis encore à résonner dans le noir. Ce soir, une guerre sommeille en moi. Ce soir, je reste seul à ressasser les pensées, à des choses qui me bercent ou me percent le cœur. Ce soir, je reste seul dans mon cocon, dans ma tanière. Je m'endormirai dans ma tabatière. Ce soir, je reste seul, loin des bars et des trottoirs sales, loin des gros soifards. Dans mon esprit, trop de bagarres. Je reste au calme ce soir, j'ai besoin de ça ce soir. Je veux pas fêter quoi que ce soit. Un soir solo, faut que je me requinque pour sûr. Faut que je sorte une feuille et crache tout dessus. Bien trop de torture mentale auto-infligée. Je ne verrai pas les potes en discutant autour d'un pichet. J'ai pour unique terrain de jeu un salon mal rangé. Le fond d'un verre de rhum arrangé. Seul c'est plutôt rare, mais ce soir, bah ça m'a tenté. Dissipé, j'ai rien d'autre en tête à part glander. C'est bien con, j'ai tant de bouquins à lire, de richesses à connaître. Mais ce petit bâtonnet marron a niqué ma promesse. Le temps passe vite, j'ai même pas le temps de l'admettre. J'attends que le soleil se lève et tape dans ma fenêtre. Je me remémore quelques pertes de mémoire. Je vais pas faire le mec droit, la coupe est pleine de déboires. Et sur une guitare chaude, je n'ai su que rester froid. Ça serait la fin du monde dehors, je le saurais peut-être même pas. Enfermé volontairement, parfois ça fait du bien quand même. Sans pour autant que la solitude devienne mon putain d'emblème. Je suis posé en pyjama claquette. T'en fais pas pour moi mon gars, oui ça va t'inquiète. Je suis absent ce soir, demain je serai de retour, promis. Ça me jouera des tours de tout délaisser pour le chromie. Un soir seul, silencieux, sans cesse à ressasser. Un texte à recracher, pour ça que j'ai pris mes distances vieux. Ce soir je reste seul, à ressasser les pensées, à des choses qui me bercent ou me percent le cœur. Ce soir je reste seul, dans mon cocon, dans ma tanière. Je m'endormirai dans ma tabatière. Ce soir je reste seul, loin des bars et des trottoirs sales, loin des gros soifards. Dans mon esprit trop de bagarres. Je reste au calme ce soir, j'ai besoin de ça ce soir. Je veux pas fêter quoi que ce soir. Je n'émane que des ondes sismiques. Ma vie a besoin de grandes secousses. Cherche toujours ce putain de plan de secours. Rien à secouer que tous ces gros masses pendent. Cette nuit mon gros, je suis dans le Joe Man's Land. Je fume à mon écœur et les bronches. Dans ma tête c'est la demeure. Vivement demain que je perde cette envie de jeter l'éponge, de tarter les tronches. J'attends le retour de la positivité. Je mérite mieux que de gâcher mes possibilités. J'apprécie le silence et si je tends l'oreille, j'entends la nuit qui pense et me donne conseil. Sans cesse anesthésié, c'est comme si on dormait debout. Entre les porcs, les loups, j'ai voulu être seul, c'est tout. Je pense à la famille, je me dis que le temps, bah ça va vite. Et que je dois les voir plus souvent, même si mes idées ne sont pas validées. Je dormirai 10h, car demain faut pas que je sois mal luné. Je crame un gramme à fumer, j'ai pas envie de crapahuter. Ce soir je reste seul, à ressasser les pensées, à des choses qui me bercent ou me percent le cœur. Ce soir je reste seul, dans mon cocon, dans ma tanière. Je m'endormirai dans ma tabatière. Ce soir je reste seul, loin des bars et des trottoirs sales, loin des gros soifards. Dans mon esprit trop de bagarres. Je reste au calme ce soir, j'ai besoin de ça ce soir. Je veux pas fêter quoi que ce soit. Quoi que ce soit, quoi que ce soit, quoi que ce soit, quoi que ce soit, quoi que ce soit.
jamais rien entendu d'aussi ébouriffant.
À Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9. Et partout ailleurs sur principactif.net. Principactif, le mix des cultures.